Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde Femmes. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femmes Radio Zone 93.8. Et oui, comme tous les mercredis, nous nous retrouvons dans Remue-ménage. Nous essayons chaque mercredi de faire remuer tout ce qui concerne les femmes, leur donner la parole lorsqu'elles sont amenées à être actives dans l'une ou l'autre action qui concerne soit le monde des femmes, soit l'engagement dans notre société. Et aujourd'hui, effectivement, c'est dans ce sens-là que nous allons donner la parole à deux femmes. Nous allons parler du Guatemala. Il y a peu de temps, 3 semaines, si je ne me trompe pas, il y a eu des élections au Guatemala, ce pays d'Amérique latine qui n'est guère réputé pour faire participer ses citoyens à un processus démocratique, et pourtant c'est la première fois que les gens vont réellement pouvoir participer à des élections à peu près organisées démocratiquement. Et à cette occasion, des organisations défendant les droits de la personne avaient invité des délégations étrangères à venir surveiller, contrôler comment les choses se passaient au niveau d'abord de la campagne électorale, puis ensuite des élections elles-mêmes, comment ça se passait dans les locaux de vote, s'il n'y avait pas en général, tant dans la campagne que dans les élections, au moment des élections proprement parlées, de pression, de répression fait sur soit les candidats, soit la population elle-même pour aller voter. Alors, en plus, bien sûr, quel était l'enjeu de ces élections pour les deux femmes qui, de Genève, ont participé à la délégation qui était invitée par les organisations pour la défense des droits de la personne guatémaltèque. Eh bien, ces deux jeunes femmes aussi, l'enjeu de ces élections était évidemment important. Alors, ce sont Brigitte Bertuzzo, que nous avions déjà rencontré lors de la fameuse soirée retour de Pékin et de l'association Nord-Sud 41, association qui défend, organisation non gouvernementale, qui défend justement les droits de la personne. Donc Brigitte Bertuzzo et Suzanne Lersch, que nous connaissons bien sur notre antenne. Suzanne Lersch qui travaille dans le groupe Espace Femmes International et Filles, que l'on retrouve aux côtés de tout ce qui, ou à l'intérieur de tout ce qui s'organise à Genève, à propos des femmes et aussi sur les problèmes de développement et d'engagement, en particulier dans l'Amérique latine et l'Amérique centrale. C'est une région du monde qu'elle connaît bien pour y avoir vécu elle aussi. Alors, l'enjeu de ces élections et surtout qu'est-ce qu'elles allaient y faire? Quel est le rôle d'une de ces délégations invitées pour surveiller un processus électoral? Qui leur avait demandé de faire cela et quelle est la situation du Guatemala bien aujourd'hui. Toutes ces questions que je leur ai posées lorsque je les ai rencontrées, que nous avons discuté un peu à bâton rompu de ce qu'elles avaient fait au Guatemala.
Souvent dire certaines choses à propos de processus électoraux, on dit des organisations internationales, des représentants de certains pays sont allés dans tel et tel pays pour observer ce qui se passait lors de phénomènes électoraux. Alors, Brigitte et Suzanne sont allées au Guatemala pour effectivement être observatrice lors des dernières, disons, de l'avant-élection et du pendant-élection. Alors, on va peut-être leur demander tout d'abord de nous préciser, de nous rappeler quelle est la situation en ce moment au Guatemala. On sait bien que c'est un pays qui n'a pas du tout vécu une situation démocratique depuis de nombreuses années. On connaît un peu le Guatemala, entre autres, par les témoignages de Rigoberta Menchú, que nous avons pu lire, entendre, et heureusement même entendre à Genève, puisqu'elle était venue dans le cadre d'une invitation faite par l'Institut universitaire pour le développement. Maintenant, quelle est la situation aujourd'hui au Guatemala? Alors, laquelle de vous deux se lance dans la description? Suzanne?
Donc, je veux juste rappeler que le Guatemala, c'est donc un petit pays d'Amérique centrale qui comporte environ 11 millions d'habitants et qui a cette particularité que entre 70 et 80% de la population a une identité indigène, maya ou d'autres cultures. Donc, mais la culture maya étant la culture... majoritaire. Je pense que ça donne aussi à la vie politique et économique de ce pays un caractère particulier. C'est aussi un pays qui a été un champ d'exercice de la lutte contre insurrectionnelle des États-Unis depuis très très longtemps. Donc il a vécu depuis la guerre une situation extrêmement dure. Parce qu'en fait, les intérêts du Guatemala et notamment certaines réformes qui étaient amenées par M. Arbenz se sont heurtés de front aux intérêts de la United Fruit, qui est une grande multinationale américaine. Et là, vraiment, ça a été l'ordre d'une multinationale en fait, qui a été imposée à cette révolution, en guillemets, qui était une révolution douce, en fait, qui voulait essayer d'intégrer un petit peu mieux les choses, a été complètement stoppée. Et depuis cette époque, tous les mouvements populaires, donc aussi bien syndicaux qu'indigènes, qu'étudiants, ont été systématiquement décimés. Il y a eu énormément d'assassinats de dirigeants, donc il y a eu un état de non-démocratie vraiment depuis plus de 30 ans.
Donc, justement, c'est ce que je voulais te demander. Dans quelles années tout ça c'était? C'était les années 70.
Donc, le coup d'État qui a mis fin au gouvernement Arbenz est en 1954. Et les grands mouvements de répression, ça a été plutôt dans les années 70-80. Et puis, évidemment, tout ceci, le fait que la vie politique était complètement bloquée, il n'y avait pas d'issue politique au mouvement, a entraîné... les groupes à se former de façon armée. Ces groupes armés actuellement ont formé une organisation unitaire qui s'appelle l'URNG. Et disons maintenant, après 30 ans d'affrontements extrêmement durs entre l'armée et l'URNG, dont les paysans ont malheureusement beaucoup fait les frais, parce qu'il y a eu une très forte répression envers les paysans qui étaient soupçonnés d'appuyer la guérilla, comme ça s'est passé dans beaucoup d'autres endroits du monde, et ça continue, on commence à avoir une petite lueur de fin à ce processus qui est d'une violence extrême. En effet, depuis 1987, il y a des pourparlers qui sont engagés entre le gouvernement et l'URNG pour signer des accords de paix. 1987, c'est le moment où, au niveau de l'Amérique centrale, il y a des réunions à Esquipulas pour faire des accords de paix. Et de là sont nés plus ou moins les processus de paix entre la Contra et les sandinistes au Nicaragua, aussi au Salvador. Enfin, ça a donné naissance, disons, à tous ces processus. Mais au Guatemala, dans les dernières années, il y avait un gouvernement tellement répressif et dictatorial que ces accords n'ont pas vraiment commencer à se réaliser jusqu'en 1994, où là, ils ont pu reprendre d'une façon, je pense, qui est intéressante, au sens où elle intègre un mouvement qui s'appelle l'Assemblée de la Société Civile. C'est donc fixé par les accords, la participation de ce mouvement. C'est un mouvement donc qui réunit tous les organisations et mouvements populaires qui veulent y participer et qui est, si on veut, qui a été lancé et chapeauté au début par les secteurs progressistes des églises, notamment les églises catholiques, qui en fait élaborent des contenus et les apportent, disons, à la table de discussion des accords de paix, mais à cette table se réunit le gouvernement et l'URNG. Donc ils ne sont pas directement parties prenantes, mais ils peuvent amener des contenus à cette table de négociation. Alors là, donc en 1994, ils ont signé donc l'accord cadre qui fixe un petit peu ces modalités. Et puis, tout de suite après, un accord sur le respect des droits de la personne au Guatemala. C'est un domaine où il y a énormément de violations, il y a énormément de personnes assassinées, de personnes disparues, et ça continue. Donc ces accords de mars 1994 instaurent notamment la présence d'une mission permanente de l'ONU, qui s'appelle MINUGUA, qui est une instance donc, qui est là pour observer, et qui peut recueillir aussi toutes les plaintes. Et ça a donc déjà créé un cadre, disons, un petit peu plus sécurisant pour les habitants et pour les personnes qui sont organisées dans un syndicat, dans une organisation des droits de l'homme, etc.
Organisations qui ont continué d'exister malgré la répression.
Organisations qui ont continué d'exister malgré la répression, de façon très affaiblie, notamment pour le mouvement syndical et le mouvement étudiant, qui ont vraiment été décimés, mais sont nées d'autres organisations, justement sur cette problématique des droits de l'homme et du respect des droits de la personne. Donc il y a une organisation de femmes très importante, qui s'appelle Conavigua, c'est l'organisation des veuves. Il y a le GAM, le Grupo de Apoyo Mutuo des familles de disparus. C'est aussi une organisation donc, qui fait des recherches de personnes disparues, etc. Enfin, il y en a beaucoup, et beaucoup d'organisations aussi qui, sur le respect des droits de la personne. Et le mouvement indigène aussi a commencé à avoir ses propres organisations. Donc là, je pense que le prix Nobel à Rigoberta Menchú leur a donné du courage, en tout cas, pour s'organiser, pour se montrer. La célébration du 500e anniversaire, etc., bon, qui était juste aussi ce qui a permis, je pense, à Rigoberta d'avoir son prix, leur a aussi permis d'émerger. Donc il existe beaucoup d'organisations des indigènes. Et ces organisations, justement, ont élaboré aussi dans le cadre des accords de paix des contenus pour un accord sur les droits des peuples indigènes au Guatemala. Ces accords ont été signés en mars 1995. Et tout ceci, si on veut, a créé une conjoncture qui a redonné du courage, je pense, à beaucoup de gens pour se dire « cette fois, on va participer aux élections », alors que depuis 30 ans, la gauche n'y participait pas.
Mais il y avait quand même un processus électoral, mais complètement trafiqué. Donc.
Voilà, il y avait des processus électoraux avec un degré de fraude absolument époustouflant, et aussi un abstentionnisme extrêmement grand. Les dernières élections, c'était du 18% de participation, ce qui est vraiment très peu pour ce genre de pays en Amérique centrale où il y a quand même toujours eu des taux de participation plus élevés. Donc, la conjoncture a un petit peu changé dans le sens que les gens, ils commencent à voir qu'il y a peut-être une issue politique au problème de ce pays. Donc, il y a une ouverture à la participation au processus électoral, donc à partir à peu près de mars 1995.
Donc ces élections représentaient vraiment un enjeu spécifique, particulier pour les divers mouvements en ce moment au Guatemala.
Tout à fait. Donc il y avait divers enjeux. Il y avait l'enjeu tout simplement des inscriptions. Donc comme jusqu'à maintenant, les organisations n'appelaient pas à voter ou carrément appeler à l'abstentionnisme, elle n'appelait pas non plus à s'inscrire pour voter. Donc là, je pense qu'il y a eu tout un travail qui s'est fait, tout simplement d'encourager à participer aux élections sans dire à voter pour telle ou telle organisation. Et puis, il y a eu en juin 1995 la création d'un nouveau parti qui justement regroupe un grand nombre de ces composantes de la gauche guatémaltèque, donc des composantes du mouvement ouvrier syndical, du mouvement paysan, du mouvement indigène, du mouvement pour les droits de la personne, du mouvement des femmes, tous ces gens se sont mis ensemble pour présenter des candidats à toutes les instances qui étaient donc mises en votation le 12 novembre, à savoir la présidence, le Parlement national, les municipalités et le Parlement d'Amérique centrale.
Donc ce parti s'appelant le Front démocratique.
Le Front démocratique Nouveau Guatemala. Frente Democratico Nueva Guatemala.
Il y a encore une question que je voulais te poser. Comment se fait-il que le gouvernement négocie avec la guérilla ? La guérilla représentait au Guatemala quelque chose de populaire, enfin avec un soutien populaire important qui aujourd'hui fait qu'elle est un élément de la négociation, contrairement, je sais pas, au Sentier Lumineux ailleurs.
Alors là, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'URNG, mais disons, je pense qu'ils étaient effectivement suffisamment forts et suffisamment représentatifs et reconnus pour que le gouvernement il ne puisse pas faire autrement que d'entrer en négociation avec eux.
Mais je crois que ça vient aussi du fait du changement dans la situation du monde. Et ils ont été un peu forcés de négocier parce que plus personne n'acceptait, en particulier les Américains qui ont toujours été le soutien du gouvernement guatémaltèque. Là, les États-Unis commençaient un peu à être un peu réticents à soutenir encore ce gouvernement qui violait les droits de la personne aussi ouvertement. Et donc là, je pense qu'il y a aussi eu une pression internationale.
Mais vous me le disiez tout à l'heure, alors qu'on préparait cette émission, qu'aujourd'hui, dire qu'on a des contacts avec la guérilla est encore passible de mort.
C'est encore un très grand danger. Il y a d'ailleurs de nombreuses communautés paysannes qui sont encore en fuite maintenant, qui s'appellent les communautés en résistance, et qui sont poursuivies par l'armée parce qu'elles sont soupçonnées de soutenir l'URNG. Donc c'est encore vraiment quelque chose de très grave si on peut prouver le lien, un lien quelconque, et même présumé, entre une personne ou une organisation et la guérilla.
Mais il faut juste dire que l'URNG et le Sentier Lumineux, ça n'a vraiment rien à voir. Ce n'est pas du tout une organisation qui a eu ce type d'idéologie ou ce type de pratique. Donc je pense qu'à ce niveau-là, cette comparaison n'est pas valable. Et il faut dire aussi que la présence de l'URNG, elle a entraîné effectivement des déplacements de personnes, de paysans, de façon absolument massive. On compte qu'il y a eu au niveau interne à peu près 1 million de paysans qui ont dû quitter leurs terres et pour se réfugier dans d'autres parties du pays ou dans des forêts où ils sont restés cachés pendant plusieurs années, ou bien qui sont partis au Mexique, il y a eu dans les 60 000 réfugiés au Mexique. Mais disons, ça représente une proportion très très importante de la population. Donc je pense que sans résoudre ce problème de la guérilla, il n'y a pas de développement et de paix possible dans ce pays. Et comme l'URNG, elle demande un certain nombre de choses, comme le droit à la terre, les droits le respect de la démocratie, le droit à la santé, à l'éducation, etc., de fait, il y a une convergence d'intérêts entre les revendications du RNG et les revendications du mouvement populaire.
C'est une marimba du Guatemala qui accompagne notre émission aujourd'hui, des marimbas du Guatemala que nous allons entendre, ainsi que la musique du Chiapas au Mexique. Nous sommes en compagnie de Brigitte Bertuzzo et Suzanne Lerche qui évoquent les dernières élections au Guatemala et leur présence sur place. Vous êtes dans Remue Ménage, c'est Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Alors très concrètement maintenant, qui est-ce qui a fait appel à vous en tant qu'observateur de ce processus électoral et qui a été touché? Vous avez été contacté en tant que quoi? Alors Brigitte, on sait qu'elle participe à un mouvement de défense des droits de la personne. Suzanne, on sait qu'elle est impliquée dans toutes sortes de choses, que ce soit femmes, développement. Est-ce que c'est pour cet engagement-là qu'on vous a demandé de faire partie de cette délégation, Brigitte?
Oui, alors ce qui nous a invités, je pense qu'il y a eu aussi différents secteurs qui ont appelé à aller au Guatemala. Il y a bien sûr tous les mouvements démocratiques dont on a parlé, qui ont demandé aux organisations de solidarité d'y aller. Il y a aussi le gouvernement, le président actuel du Guatemala, qui en février, quand il était à Genève, a fait un appel à la communauté internationale. Et c'est un peu pour répondre à ces appels que le groupe Solidarité Guatemala a mis sur pied cette délégation.
Le groupe Solidarité Guatemala à Genève.
Ouais. Et pour cette délégation, il a fait appel à des députés genevois, syndicalistes, féministes. Et c'est comme ça qu'on est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on attendait de vous? Parce que, bon, tu l'as précisé, Brigitte, qui a fait appel à vous? Les mouvements de défense des droits de la personne, même le président, c'est donc des forces très différentes les unes des autres. On attendait de vous une tâche énorme, visiblement, si vous étiez censé satisfaire les demandes de ces extrêmes-là. Alors, concrètement, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on voulait que vous fassiez et qu'est-ce que vous avez pu faire dans les fêtes?
Bon, je crois que notre délégation a vraiment répondu à l'appel du mouvement démocratique, des organisations de protection des droits de la personne en particulier. Donc notre tâche était surtout de rencontrer ces organisations, d'écouter ce qu'elles avaient à nous dire au sujet de la situation concrète au Guatemala, d'essayer de donner du courage à certaines communautés qui étaient vraiment sous pression pour qu'elles osent aller voter, pour qu'elles osent faire campagne, que les militants osent se montrer. Et enfin, pendant les élections, voir que tout se déroule le mieux possible.
Dans les fêtes, vous y étiez les 10 jours qui ont précédé les élections?
Nous y étions dans la dernière semaine de la campagne électorale qui s'est terminée une semaine avant le jour du vote. Et puis seulement 2 personnes de la délégation sont restées la semaine suivante et le jour des élections. Parce qu'une des demandes qu'on avait reçues, c'était justement de venir observer comment se passait la campagne. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'intimidation, justement, pour ces organisations populaires, dans la mesure où elles présentaient des candidats, etc., et qu'elles avaient toujours subi une répression extrêmement forte. Donc là, nous avons beaucoup parlé avec certains des candidats. Nous sommes allés à des meetings, nous sommes allés à des manifestations de rue, justement. Et nous avons recueilli un certain nombre de témoignages qu'il y avait effectivement, de la propagande qui était systématiquement arrachée, par exemple, qu'il y avait des menaces que certains candidats avaient reçues, leur maison avait été fouillée en prétextant qu'il y avait eu un vol ou je ne sais pas quoi, où il y avait des choses qui étaient peintes sur leur maison, justement, qui disaient qu'ils étaient membres de la guérilla, des choses comme ça, ou bien qu'ils étaient indios, ce qui est encore une insulte au Guatemala. Donc, je pense aussi que notre présence, elle devait assurer indirectement une certaine protection aux candidats et aux mouvements qui se sentaient les plus menacés.
Bon, on entend souvent parler de ces équipes d'observateurs dans les processus électoraux, et en tout cas, je sais que personnellement, je me suis toujours demandé comment ils pouvaient réellement faire leur travail. Parce qu'à partir du moment où on vous demande de venir, c'est qu'on sait que vous êtes là, donc on va essayer de jouer la carte de la démocratie, j'imagine, puisque même le président avait fait appel à des délégations. Donc comment arriver à être vraiment au cœur des choses et à savoir, est-ce que c'est vous avez pu rencontrer les personnes chez elles en dehors d'une pression extérieure évidente, où les gens ont pu vous parler vraiment honnêtement, vous avez pu, enfin honnêtement, je ne sais pas ça que je voulais dire, librement. Est-ce que, et puis c'était aussi intéressant d'observer quels étaient les moyens qu'on leur laissait à disposition pour faire leur campagne électorale, justement, je ne sais pas, moi, moyens de presse. Lieux publics, journaux, et puis je sais pas moi. Ensuite, après toi, Brigitte qui est restée, donc toi tu es restée pendant les votations aussi. Pas d'intimidation au moment de mettre le bulletin dans l'urne.
Mais je crois, on a par exemple quelques exemples très concrets où je crois modestement on a pu quand même aider les gens parce qu'on a été, une partie de la délégation a été dans un village où. L'armée était vraiment au milieu du village. Et quand on sait l'histoire du Guatemala, c'est évident que de voir l'armée qui est à 10 mètres des urnes, c'est pas très favorable à pouvoir voter librement. Quand même. Donc on a été là, les gens qui sont allés sont revenus très impressionnés par ce qu'ils avaient vu. Et vraiment, ils ont eu peur ce jour-là, parce qu'ils sentaient la pression des militaires. Et en arrivant... Enfin, après, on a rencontré les observateurs de l'Organisation des États américains et on leur a raconté ce qu'on avait vu dans ce village. Et eux ont été après quelques jours aussi. Et le jour des élections, il y a de nouveau des gens qui y sont allés et les soldats avaient disparu.
Et pourquoi étiez-vous allé dans ce village-là en particulier ? Parmi les organisations que vous aviez rencontrées, on vous avait dit dans ce village, il y a une pression particulière.
Oui, c'est les organisations qui nous ont accueillis, qui nous ont dit allez dans ce village, parce que là, la pression est très forte. Et on a aussi été dans un autre village où le curé a été menacé, enfin, où c'est vraiment... Ouais, bon, c'était moins grave peut-être parce que c'est concentré sur le curé. Parce que dans les municipalités où il y a où le mouvement démocratique n'est pas assez fort pour faire un parti, parce que les partis doivent être au niveau national, mais dans les municipalités, ils pouvaient former des comités civiques. Et dans ce village, il y avait un comité civique et le curé était très actif et c'est lui qui concentrait toutes les pressions de des autres candidats, enfin lui n'était pas candidat, mais des candidats des autres partis. Et aussi lui nous a vraiment dit, mais si vous pouvez rester, il faut que vous soyez là parce que tout peut arriver le jour des élections et tout ça. Et le jour des élections, il y avait des gens sur place, des observateurs étrangers, et ça s'est bien passé. Donc c'est certainement pas seulement grâce à notre présence, mais je pense le fait qu'il y ait eu comme ça quelques jours d'intervalle, plusieurs visites, a quand même dû calmer les esprits.
Suzanne, tu peux nous parler d'une autre rencontre que vous avez faite, du type de celle que vient de nous raconter Brigitte ?
Donc moi, malheureusement, je n'ai pas pu faire cette partie du voyage qui consistait à aller visiter les communautés parce que j'ai dû rentrer avant. Mais disons que j'ai pu parler notamment avec des personnes qui sont dans des organisations des droits de la personne. Et notamment, on a beaucoup parlé avec une jeune femme qui essayait de nous expliquer un petit peu quelle était la situation des femmes, justement, qu'est-ce qu'il en était de la participation des femmes à ces élections. Donc évidemment, elle nous faisait observer qu'au niveau légal, les femmes ont le droit de vote depuis peut-être fort longtemps. Elle l'avait sûrement avant les femmes suisses, c'est pas difficile. Mais que beaucoup de femmes sont analphabètes du fait de la culture indigène, etc. La grande majorité des analphabètes de ce pays, ce sont les femmes, et il y a encore 60 à 80% d'analphabétisme au niveau du pays, dont une grande majorité sont des femmes. En plus d'être analphabètes, beaucoup de femmes ignorent même qu'elles ont le droit de vote, parce que ce n'est pas leur mari qui va les mettre au courant. Il n'y a pas eu non plus de campagne massive de la part de l'État, par exemple, dirigée vraiment vers les femmes pour leur dire « vous avez des droits, utilisez-les ».